Sur la ligne, le podcast officiel de la Coupe Rogers présenté par Banque Nationale, épisode 10, Nicolas officiellement. Podcast qui est maintenant disponible sur Spotify, oui. Nicolas. On a réussi à le mettre là. Ça devrait faire exploser nos codes d'écoute, enfin, on le souhaite. Ça devrait être beaucoup plus facile pour accéder, du moins d'un point de vue audio. Tous les épisodes sont là, incluant notre épisode spécial de la Coupe Rogers, qui est d'ailleurs le plus écouté à date sur Spotify, pour écouter ta prédiction numéro un qui sortait de l'ordinaire, Nico.
Oui, on va le dire comme ça. Mais toujours avec le cœur, toujours avec le cœur.
Nico, cette semaine, on s'énerve parce qu'il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de Canadiens au US Open. On vit une semaine complètement historique et on s'énerve d'autant plus parce qu'on a deux invités que j'adore, qui sont pour moi des membres incroyables du domaine des médias. On a avec nous Valérie Tétrault et Paul Rivard, la légende de la télé montréalaise. Je suis très content de les avoir avec nous. On va les présenter tout à l'heure. Mais avant, Nico, comme c'est l'habitude, es-tu prêt?
Absolument. Plus que jamais. Plus que jamais.
C'est parti.
Écoute, Alex, maintenant qu'on est sur Spotify, je suis pas mal certain que notre trame sonore va se retrouver dans les palmarès Spotify, quelque part entre The Weeknd et Justin Bieber. On croise les doigts.
Ça se pourrait que ça se retrouve dans le top des palmarès. Ça nous ferait une bonne promo. Je sais que toi, si on pouvait voter, tu irais voter à tous les jours sur cette chanson-là que tu écoutes à repeat.
Je ne ferais que ça.
Avant de t'endormir.
Voilà.
Ça, semble-t-il que ta blonde aussi l'écoute aussi maintenant
à repeat. Fan. Grande fan.
Nico, je suis tellement content parce qu'aujourd'hui, j'ai deux personnes que j'adore au podcast. J'ai d'abord Valérie Tétrault, représentante aux communications de Tennis Canada, également analyste à la télévision. Excellente analyste, je dois préciser. Et nous avons également son collègue à la télévision, Paul Rivard, un mentor pour moi. Et d'ailleurs, avant qu'on commence, je veux le dire devant tout le monde, Paul a été quelqu'un qui a cru en moi dans ma carrière. Et Paul, je l'apprécie beaucoup. Je ne serais pas là où je suis rendu si ce n'était pas de toi. Valérie est aussi une des personnes qui a cru en moi dans ma carrière. Alors, c'est pour moi, je suis très fébrile et je suis très honoré de vous avoir au podcast et de vous avoir en entrevue. Merci d'être là.
Très heureux.
C'est un plaisir.
Et sautons dans le vif du sujet parce qu'il y a un tournoi et là, Nico, c'est pas pour toi, mais moi je suis énervé parce qu'il y a beaucoup de fun cette semaine, beaucoup de plaisir, beaucoup de Canadiens qui se sont rendus très loin et même du côté des femmes, Leila Fernandez, c'est pas une performance négligeable, assurément pas. Vous, Paul et Valérie, je vais commencer avec Paul, êtes-vous excité de ce qui se passe cette semaine?
Très excité, écoutez, c'est jamais arrivé d'abord qu'on ait... quatre Canadiens dans ce stade. Je parle au stade du tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem. En plus, on en a un qui est en quart de finale et je pense que jusque-là, au US Open, la fiche des Canadiens était de 0-12 et c'est maintenant, c'était 1-14, là, si je calcule la victoire de notre ami Denis Shapovalov et les défaites de nos deux autres amis aujourd'hui. C'est extraordinaire. On avait vu arriver Oji Aliassime et Shapovalov. La résurgence, je dirais la résurrection de Vacek Pospisil est quelque chose d'extraordinaire. Et je dirais la mini-résurrection de Miloš Raonic, qui est allé jusqu'au 40e rang mondial il y a 2 ans, puis qui était 37e il n'y a pas si longtemps. Alors, Valérie, tu dois partager encore un peu plus, toi, parce que c'est comme, entre guillemets, des anciens collègues de Tennis Canada.
Oui, ben on a l'impression, finalement, que New York est devenue une place spéciale pour le tennis canadien, parce que, bon, il y a un an, je pense, aujourd'hui, en fait, c'est Bianca Andreescu qui remportait ce premier titre du Grand Chelem en simple pour le Canada. Et là, une autre édition, une édition qui est très différente. Donc, d'une part, c'est sûr que j'étais excitée de revoir enfin du tennis. C'est très différent. différent lorsqu'on dit que le US Open est la deuxième étape du Grand Chelem de cette saison 2020. Mais bon, ça fait du bien de revoir le tennis professionnel, évidemment, à la télévision, et de voir tous ces Canadiens qui performent très bien depuis le début du tournoi. Et vous faites bien de mentionner, parce qu'on parle beaucoup des hommes dans les derniers jours, mais c'est vrai que Leila Anny Fernandez a elle aussi connu de beaux succès dans cette saison 2020. Et ben, je suis heureuse de voir qu'elle a pu concrétiser justement tout ça en allant chercher une belle victoire au premier tour des internationaux des États-Unis. Ça lui permet de percer le top 100, ce qui n'est pas rien non plus. Et chez les hommes, ben, j'ai juste envie de dire que Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime, voilà longtemps qu'on les attend, un peu plus loin dans des tournois du Grand Chelem. Bon, Denis avait quand même déjà bien fait à New York en 2017, mais maintenant avec une présence en quart de finale, ça doit être spécial pour lui. Et maintenant, c'est ouvert, hein? Qui sait? C'est un tournoi qui est à la portée de presque tous ceux qui sont toujours dans ce tableau. Alors, on se croise les doigts pour qu'il puisse poursuivre sa route.
Et si je peux enchaîner avec ce que Valérie a dit, rappelle-toi ce fameux match où Félix Auger-Aliassime avait souffert d'arythmie cardiaque et lorsqu'il était allé le réconforter, son ami Denis Shapovalov lui avait dit « Un jour, on va être en finale de ce tournoi, mon ami. » Et là, je regardais le tableau avec le départ de Novak Djokovic pour des raisons dont on reparlera dans quelques instants. On a pensé probablement tous à la même chose. Hein? On se disait, ils sont pas dans le même côté du tableau. Mais bon, ce sera pour peut-être une autre année.
Ah, Paul, j'y ai cru. J'y ai cru. J'avais commencé à commander des chandails même avec une finale toute canadienne. Mais effectivement, ce sera une autre fois.
Ah ben, puis ce sera très possible. Je veux dire, on peut y rêver. Tu sais, j'en parlais à la radio précédemment aujourd'hui. Tu sais, on peut commencer peut-être même à rêver. Je dis pas que ça va arriver, mais à un titre canadien au US Open encore aujourd'hui. Shapovalov, il a ses chances. Peu importe qui il va affronter d'ici la fin du tournoi, ce sera pas donné d'avance pour peu importe quel adversaire.
Valérie. Ouais.
Ben, j'allais dire, je sais pas pour toi, Paul, mais ce que j'aime particulièrement voir chez Denis Shapovalov là, au cours des derniers jours, c'est son attitude. Parce que c'est peut-être l'aspect de son jeu qui m'avait un peu déçu au tout début de la saison. Si on remonte aux internationaux d'Australie, ce fameux match contre Fucsovics, et il avait de la difficulté à s'accrocher. On le sentait souvent très négatif. Et ben là, c'est un nouvel homme, parce que s'il avait eu cette attitude, déjà, il serait pas passé à travers Taylor Fritz. Ça, c'est clair. Il a dû justement s'accrocher dans ce match-là à travers les moments difficiles pour aller finalement chercher la victoire. Et quel match contre David Goffin! Parce qu'honnêtement, c'est certainement pas Goffin qui lui a donné cette rencontre. Et encore une fois, il perd une première manche dans laquelle il s'était très bien battu, une longue première manche, qui était extrêmement physique. Et il se remet tout de suite de cette déception parce qu'il était passé quand même à côté de son bris d'égalité pour remporter les trois manches suivantes. Franchement, il a joué du gros tennis et il commence à démontrer justement que il gagne en maturité et qu'il est prêt maintenant pour jouer de gros matchs et aller jusqu'au bout dans les tournois du Grand Chelem.
Si je peux ajouter quelque chose à ce que Valérie disait sur Shapovalov, tout à fait d'accord avec David Goffin. C'est le gars qui peut vous tourner en bourrique tellement il est, semble-t-il, fragile. Il est presque chétif, mais quel combattant! Petit Belge au grand cœur et d'une régularité à faire damner n'importe qui. Mais Valérie, j'aimerais te reporter quelques rondes en arrière. Taylor Fritz, on est d'accord, ça a été effectivement une grande performance. Compte tenu des bombes nucléaires que l'autre lui envoyait au service, plus fort que les Raonic, Karlovic et Isner et Opelka. Mais moi, c'est Sun Woo Kwon. J'ai vu Sun Woo Kwon jouer contre Miloš Raonic à un tournoi intérieur à New York au début de l'année. Et je me disais, il va l'écraser. Et l'autre avait tenu le coup. Et il était lui aussi infranchissable. Il ne ratait jamais et il avait éliminé Raonic. Quand j'ai vu le début de ce match-là, j'ai eu peur, exactement la même chose. Et si je regarde le score, contre Sun Wukwon. Il a perdu la première manche 7-6 et les deux autres 6-4, 6-4, c'était toute la bagarre. Qu'est-ce que je remarque en conclusion sur le US Open et les récentes améliorations au niveau de Denis Shapovalov? C'est que ce style all-in, ce shot maker si spectaculaire, ce gars qui est un artiste, a ajouté la patience et une régularité qui m'a jeté par terre pendant le US Open avec les résultats que l'on connaît.
Hey Nico, je te propose quelque chose. Oui. On va aller se faire un café tous les deux. On va les laisser.
Désolé.
On va les laisser jaser parce que sont incroyables. Non, non. Puis nous, on va prendre une semaine de break. On va leur mettre le podcast dans les mains. Moi, je vais m'occuper du montage.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, tu sais. Ça...
Mais vous êtes incroyables. Puis la qualité d'un bon intervieweur, c'est de laisser parler ses invités quand ils sont bons. Et c'est votre cas. Nico, je vais te donner une petite place. C'est quoi ton moment coup de cœur pour l'instant de ce tournoi du US Open?
Mais évidemment, tout ce qui arrive en ce moment, c'est phénoménal. Mais je pense, d'un point de vue personnel, la percée de Vasek Pospisil m'a impressionné à un point difficile à exprimer parce qu'on ne l'attendait pas là. Et ce qui me fascine d'autant plus, c'est que bon, il y a des parcs de tennis à proximité de chez moi et vraiment, on sent qu'au-delà de ce qui se passe sur le terrain, il y a une effervescence chez l'amateur de tennis parce que les terrains étaient bondés ce week-end et ce qu'on entendait, j'étais tapé des balles beaucoup ce week-end, on entendait le nom de Pospisil et c'est rare que le nom de Pospisil soit le nom principal dans les conversations au parc de tennis. Et ça, je pense que ça témoigne à quel point cette percée-là du Canadien, comme tu l'as dit au début, qu'on pensait peut-être pas qu'il était fini, loin de là, mais bon, on ne l'attendait pas. Je pense que ce retour-là, cette semaine-là, a été très bénéfique pour lui. Et je pense que c'est ce qu'on peut retenir, du moins jusqu'à maintenant, de mieux chez les Canadiens. Là.
Ouais, tu l'aimes, toi, Pospisil. Tu as même mis au numéro 1 de tes coups de cœur de la Coupe Rogers.
C'est pas pour rien parce que je trouve que c'est un gars qu'on sous-estime. C'est un combattant. On l'a vu à quel point que lorsqu'il est dans sa bulle, lorsqu'il est dans sa zone, il peut être dominant. Et j'ai tellement apprécié d'avoir joué à un si haut niveau de tennis. J'ai été époustouflé par cette performance.
D'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que le résultat aurait pu être différent contre Alex de Minaur s'il n'avait pas malheureusement échappé le bris d'égalité qu'il menait 6-2 et qu'il a perdu 8-6? Et après, souvent, et ça nous donne une idée à quel point c'est psychologique, ça fait la différence. Mais Denis en a perdu des premiers au bris d'égalité, puis il restait fort.
Ouais, je pense que pour Vasek, ça lui a scié les jambes hein, de perdre ce fameux bris d'égalité parce qu'il se battait bien, il jouait bien à la première manche. Et c'est clair qu'il devait traîner une certaine fatigue de ce marathon contre Roberto Bautista Agut. Et évidemment, pour Vasek, ben lui, il n'a pas eu la chance de jouer le tournoi de Cincinnati. Donc, il s'amène à New York. C'est son premier tournoi de retour. Et là, dans un format 3-5, où justement, il doit jouer quand même de grosses bagarres contre Raonic, contre Bautista Agut, d'avoir à enchaîner contre Alex de Minaur, qui en est un autre grand combattant en format petit. Eh bien, je pense que c'était juste un peu trop demandé pour Vasek Pospisil, mais tellement heureuse de voir qu'il avait repris exactement là où il avait laissé, parce que ça avait été tout un début de saison pour Vasek Pospisil. Et forcément, ben, il s'est bien entraîné dans les derniers mois et il est prêt. Là, ce sera tout près de la 70e place quand même avec ses résultats à New York, ce qui est pas banal et ce qui l'aidera sûrement dans les prochaines semaines aussi.
Et lorsqu'on faisait
il y a 11 mois, 176 rangs de gains par rapport il y a 11 mois. Alors, Nicolas, ton gars, il est fort.
On en parlait justement lorsqu'on faisait le tableau, Alex, rappelle-toi, on se disait si il faut que Vasek passe, c'est un tableau extrêmement difficile et ardu. Et je pense qu'il n'a pas à rougir de ses performances, puis il peut sortir vraiment la tête haute de ce tournoi-là parce qu'il a vraiment. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a battu des gars comme Raonic qui venait de gagner, Bautista Agut, c'était phénoménal. Puis je suis content pour Vasek.
Ben, moi, je pense que le gagnant de ce tournoi-là, du côté des hommes, il va être dans le bas du tableau. On verra. Moi, c'est ce que je crois. C'est-tu ton tableau des hommes ici, Nico? Ouais, si tu veux le descendre. Là,
oh, non, mais c'est pas une fierté, hein, ce tableau-là, je dois le souligner.
C'est pas grave. Juste pour les besoins de la cause, montre-nous le bas du tableau.
Parce qu'en fait, Vasek, autant je l'aime, il a brisé mon tableau parce que j'avais Bautista Agut en finale. Alors,
Ah oui, c'est vrai.
N'oubliez pas David, Daniil Medvedev.
Mmh. Ouais, ben Medvedev, il est certainement un candidat. Ben, il reste beaucoup de candidats, mais moi, je pense qu'il va venir du bas du tableau. Paul, ton coup de cœur, toi, est-ce que je dois comprendre que c'est le match contre Kwon? Est-ce que ce serait ça ton coup de cœur jusqu'à date?
On parle de Chapovalov, là, bien sûr.
Ben, ton coup de cœur du tournoi du US Open, présentement. Qu'est-ce qui t'a fait, qui est venu le plus te chercher, soit ton « wow moment » ou quelque chose qui ressemble à ça?
Est-ce que tu m'as demandé à moi ou à Valérie? Je ne veux pas interrompre Valérie.
À toi,
okay. Paul.
Alors, mon premier coup de cœur, c'est contre Taylor Fritz, compte tenu de la première manche où Fritz a éclipsé les plus grands ténors, les plus grands matraqueurs de tout l'ATP. Il servait à 143 000 à l'heure. Je n'en croyais pas mes yeux. Et de sortir de ça, c'est une chose. Et David Goffin, écoutez, j'en tremblais avant tellement que j'étais sûr que Goffin viendrait à bout du Chapovalov de l'année dernière, en tout cas. Mais vraiment, plus ça allait, et il continuait. Vous avez vu les multiples échanges de 15, 18, 20, 22 coups? Oui, c'est ça. Puis le prochain match de Chapovalov, s'il continue de jouer comme ça, Pablo Carreño Busta, vengeance. On appelle à la vengeance.
Ben, il a certainement ses chances. Moi, je pense qu'il est même favori en dépit de sa fiche perdante reconnue. Oui. C'est 1-3.
Oui.
Valérie, ton moment coup de cœur, toi, jusqu'à date du tournoi?
Ben, je vais essayer d'y aller pour des moments différents parce que c'est sûr que j'avais des coups de cœur aussi pour les moments qui viennent d'être nommés, mais allons-y avec un peu de Félix quand même, parce que c'était bon de le voir enchaîner comme ça, deux très solides performances contre Andy Murray et puis Corentin Moutet. Félix, on en parle depuis plusieurs années, il avait à peine 14 ans et je me rappelle, Paul, on faisait certains de ses matchs au Challenger de Granby et on se disait « wow, on a tout un potentiel entre les mains et dans quelques années, ben, ce sera lui le tennis masculin ». Il a beaucoup de pression sur ses épaules parce que tout le monde parle de Félix Auger-Aliassime à travers la planète tennis, même les autres joueurs qui le louangent, qui n'ont que de bons mots pour lui parce que non seulement ben, c'est un bon joueur, c'est un bon athlète, c'est une bonne personne aussi, il est très apprécié. Et bref, il a vraiment tout pour lui. Et là, de le voir justement aux internationaux des États-Unis, ben, d'abord contre Andy Murray, alors que tout ce qui ressortait, c'était le fait que Félix se rappelait en 2011 avoir vu un des matchs d'Andy Murray sur ce fameux Arthur Ashe. Et ma seule déception pour lui, c'était qu'il ne vive pas ce moment-là devant les amateurs, devant 23 000 personnes en soirée, parce qu'il y a quelque chose de spécial et d'électrisant, évidemment, lorsqu'on joue sur ce terrain-là. Mais quand même, il a joué franchement un match de champion. On a beau dire qu'Andy Murray était fatigué du marathon qu'il avait livré auparavant. Je pense quand même que Félix a été excellent du début jusqu'à la fin. Et après, lorsqu'il est revenu sur le terrain, dans un contexte un peu différent quand même contre Corentin Moutin, alors qu'il était le grand favori pour remporter ce match-là. Eh bien, encore une fois, il a livré. Alors, bon, une petite déception, oui, contre Dominic Thiem, mais quand même, je pense que ça demeure un grand chelem très, très positif pour Félix.
Et contre Andy Murray, tu sais, à ceux qui disent que Andy Murray est un joueur fini, il a battu Zverev la semaine passée. Alors, pensez pas que c'était un match donné contre un joueur fini. Oui, c'est un joueur qui avait joué 5-7, mais je pense que Félix, il a été dominant contre un joueur qui est encore très, très, très dangereux. Et moi, c'était mon coup de cœur, Andy Murray. Oui, Paul, tu voulais ajouter?
Je suis d'accord avec Valérie. Je partage mon excitation pour Félix Auger-Aliassime, mais je veux quand même qu'on reste lucide. Murray était un fantôme sur le terrain. Et là, c'est différent contre Moutet. C'est parce que Félix était imperturbable, excellent, au sommet de sa forme, qu'il a fait décrocher l'autre, qu'il n'était plus l'ombre de lui-même. Car on a tous vu jouer Corentin Moutet, il est bien meilleur que ça. Mais tant pis pour lui, s'il n'est pas capable de se contrôler, ça c'est une chose. Je pense que moi, je reviens au match contre Iago Monteiro, le tout premier, qui était le match piège et où l'autre était absolument régulier, qui ne méritait pas le... je ne sais pas, 93, 108e, je ne me rappelle plus le rang de Monteiro. Félix nous étonne encore plus. Et en passant, mes amis, une note, on a 3 Canadiens dans le top 20. Et question quiz, une seule nation fait la même chose. Laquelle?
Les Français?
La Russie.
Non,
la Russie, oui.
Bravo.
La Russie, oui, la Russie.
Valérie les connaît tous, que voulez-vous. Oui, il y a Khachanov, Medvedev et...
Roublev.
Roublev, effectivement. Alors, trois Canadiens dans le top 20. Pas espagnol, pas serbe, pas américain. Trois Canadiens. Écoutez, c'est une ère extraordinaire. Imaginez si Bianca était là.
Oui, exactement.
Des belles années à prévoir pour la Coupe Davis, peu importe le format sous lequel il sera, et la nouvelle Coupe ATP, là, le Canada. Ce qui était des performances, je me souviens de la performance de Frank Dencevich il y a quelques années en Coupe Davis. C'était contre les Italiens, les Français.
Les Espagnols.
Les Espagnols. Et on disait à ce moment-là que c'était des performances complètement historiques, mais ces performances, j'ai l'impression, en tout cas, vont devenir pas banales, mais de second ordre par rapport aux performances qu'on va voir dans les prochaines années, je pense, dans ces...
La dernière Coupe Davis contre le même pays, l'Espagne. C'était extraordinaire. Et qui était là? Vacek était là.
Ben ouais, puis Vacek, on l'oublie, mais c'est un champion de Grand Chelem en double. Tu sais, c'est comme... On l'oublie, mais c'est pas banal d'être champion de Grand Chelem.
Tout à fait.
En double. Moi, il y a aussi une espèce d'histoire qui m'a marqué. Il y avait 9 mamans dans le premier, au premier tour des internationaux des États-Unis. Et là, Valérie, tu vas me voir venir. Ces mamans-là, ils ont très bien fait. Victoria Azarenka est encore dans le tableau. Serena est encore dans le tableau. Valérie, 2022, le retour au jeu?
Non, je ne serai pas la 10e maman, je vous le confirme.
Alors, pas de retour au jeu, mais c'est quand même impressionnant de voir... Bon, le tennis, il change et les carrières sont beaucoup plus longues qu'il y a déjà une dizaine d'années. Et ça, c'est quand même positif de voir ça, je pense.
Et d'autant plus que ces mères ne sont pas que des figurantes. Là, tu l'as dit, Azarenka joue de l'énorme tennis. Williams aussi, donc ils sont pas là pour seulement ramasser l'argent et repartir. Là. Ils jouent de l'énorme tennis. Et Williams, t'en parlais, tu l'avais mis comme gagnante. Mais là, force d'admettre qu'elle est parmi les favorites. Elle est parmi les favorites et c'est de plus en plus probable qu'elle se rende jusqu'au bout, comme tu l'avais prédit. Et chapeau à Serena, parce qu'on sait que c'est pas facile de revenir après une grossesse comme ça.
Oui, on a l'impression qu'il se passe comme différentes choses lorsqu'on regarde déjà le tableau féminin en comparaison avec le tableau masculin. Bon, après la sortie de Novak Djokovic, ce qu'on remarque en fait au tableau masculin, ça fait longtemps qu'on parle de la next gen, la nouvelle génération. On en parlait déjà lorsque c'était le début de Miloš Raonic, de Grigor Dimitrov, de Kei Nishikori. Et là, par la suite, bon, il y a eu le groupe de Zverev, de Team et tout ça. Mais bref, au moment où on se parle, c'est Karen Augusta qui est le joueur le plus âgé dans ce tableau et je crois qu'il a 29 ans. Alors ça fait longtemps déjà qu'on n'a pas vécu une telle chose. Alors que chez les femmes, effectivement, ben il y a des filles comme Serena Williams, comme Victoria Azarenka qui roulent leur boss sur le circuit depuis longtemps, qui ont vécu toutes sortes de choses, qui ont dû arrêter, qui reviennent maintenant en force. Et bref, c'est bien de voir justement différents scénarios.
Avant qu'on passe au prochain sujet qui est Djokovic, je vous demande, à mi-tournoi ou presque, vos prédictions champions côté homme, côté femme. Nico, je commence avec toi, je te donne le droit de te reprendre pour ton tableau qui est proche.
Ça c'est déjà...
Mais le mien aussi est proche.
C'est dur de ne pas être chauvin, mais lorsqu'on regarde la qualité de jeu de Shapovalov, je me demande qui pourrait venir à bout du Canadien, parce que sincèrement, là, au-delà du fait que je sois Canadien, je me demande sincèrement... Qui pourrait venir à bout du camp? Il joue avec tellement de fougue, tellement de hargne, il est tellement constant, il est puissant, il est dans une bulle. Je me demande qui pourrait les branler, sérieusement.
Shapovalov est ton choix?
J'y vais pour Chapeau. C'est peut-être un gros all-in, un gros gamble, mais j'y vais aussi Shapovalov et sans gêne en plus, sans gêne.
Parce que c'est le choix de Paul aussi. Là.
Paul?
Ben en fait, c'est qu'on a de la difficulté à trouver un gagnant autre que celui que notre cœur nous dicte. Exact. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Nico. Cependant, je dirais, qui peut le battre? J'ai peur d'avoir la réponse.
Ouais.
Lui-même.
Intéressant, oui, très intéressant. Ouais.
Si jamais il perd cette régularité qu'il affiche de façon aussi exceptionnelle depuis le début.
Valérie, ton choix du côté des hommes?
Ben, à la base, j'ai l'exercice, moi aussi, de compléter un tableau. Au moins, vous ne le savez pas, fait que vous ne le verrez pas en version live. Ça me sauve une certaine honte. Mais bon, ma finale, c'était Djokovic contre Medvedev. Donc, je vais y aller pour mon finaliste, finalement, qui a une chance en or de se reprendre après sa finale de l'an dernier à New York. Et je vais y aller pour Danil Medvedev.
Medvedev est également mon choix. Du côté des femmes, Paul, tu vois qui, toi?
Naomi Osaka, je pense que Williams va encore flancher parce qu'elle le veut trop, ce 24e titre du Grand Chelem. Mais je pense que la carte cachée, c'est celle qui est impressionnante par sa... Mon Dieu, il n'y a rien de spectaculaire, mais Sofia Kenin est quand même assez impressionnante et elle est la dernière gagnante du Grand Chelem.
Ouais. C'est aussi mon choix de début, Paul, on s'entend là-dessus. Aussi, Kenin, qui était mon choix de départ, qui joue de l'énorme tennis, qui était, tu l'as dit, gagnante en titre de l'Open d'Australie. Et Mertens sera quand même un test intéressant là, pour elle, pour la suite des choses. Mais bon, je pense que c'est elle la mieux placée en ce moment. Aussi, tu l'as dit, Williams, c'est une gagnante, une battante. À New York, elle est chez elle. Mais je pense aussi qu'elle s'effondrera. Et Kenin, je pense qu'elle a la voie libre pour mettre la main sur un deuxième Grand Chelem cette année.
Tant que l'arbitre ne sera pas Ramos...
Oui,
voilà. Ça serait... Je ne sais pas s'il est encore là, je n'ai pas vu le nom de
oui, c'est lui, qui, on l'a c'est lui vu. Qui arbitrait Chapovalov, je pense.
Oui, bon, exact.
En tout cas, si je serais surpris que si Serena est en finale, ce serait.
Non, il faut
ça serait allumer un feu, je pense.
Impossible, oui.
Valérie, ta championne du côté des femmes?
Ben moi aussi, ce serait Naomi Osaka. J'aime la manière qu'elle joue, j'aime la manière qu'elle se comporte aussi à l'extérieur de ses matchs. Hein. Je pense que on a vu la Naomi Osaka qui parfois avait la tête ailleurs, disons, dans certaines entrevues, où avait une personnalité qu'on avait de la difficulté à saisir. Et là, je trouve ça bien de la voir agir plutôt en leader. Et je trouve ça rafraîchissant et je pense que c'est bien aussi pour le circuit féminin. On a besoin de ça. Et j'ai envie de dire que je serais très partante pour une finale entre Naomi Osaka et Serena Williams. Et à quelque part, Serena Williams, je ne lui souhaite pas de remporter son 24e titre et de battre le record de cette manière parce que on parlera sans doute du fait qu'il en manquait plusieurs des top 10, qu'il n'y avait pas de foule et qu'il y aura peut-être donc un petit astérix finalement sur cette victoire-là.
Ben, si jamais il n'y a pas de foule, elle ne pourra pas, Serena, essayer d'avoir 22 000 personnes contre un arbitre.
Effectivement.
Mais en même temps, tu sais, c'est pas comme si... Supposons que Chapovalov l'emporte du côté des hommes, ce sera plus facile à dire tout ça. Mais du côté des femmes, la carrière de Serena légitime quand même une victoire, même s'il y avait moins de monde, parce qu'elle a tout prouvé ce qu'elle avait à prouver. Alors, je pense que... Enfin, surtout, tu sais... Je pense qu'elle pourra en gagner d'autres par la suite. Alors, personnellement, je ne pense pas que ce serait tant diminué que ça en termes de crédibilité, sa victoire. Personnellement.
Et moi, je la vois. D'un point, tu as raison, parce que c'est quand même une grande joueuse. D'un autre point, elle ne joue presque plus parce qu'elle ne se bat que pour avoir. This, comme ils disent en anglais, this elusive last title. Mais d'un autre côté, il en manque. C'est quoi, Valérie? 2/10? Deux dans le top 10? Ou plutôt, il en manque 8 dans le top 10?
Il en manque 6 top 10. Donc, par exemple, des filles comme Simona Halep. Et lorsqu'on regarde quand même la fiche de Serena Williams dans les derniers tournois du Grand Chelem, ben justement, c'est pas comme si elle arrivait sur une série de 5 Grand Chelem remportés consécutivement. Là. Elle en a arraché et souvent contre certaines des joueuses, soit qui ne sont pas au rendez-vous ou encore qui sont, oui, présentes dans le tableau. Là.
Mais en même temps, c'est un tableau où, oui, OK, il manquait des membres du top 10, mais tu as des anciennes, presque légendes. T'sais, on parle d'Azarenka, et non, elle n'est pas dans le top 10, mais est-ce que c'est une joueuse qui peut rivaliser avec tous les top 10 du tableau? Assurément. Tu as une fille comme Zvonareva qui était là au début du tableau, qui est une ancienne numéro 2 mondiale. Alors, tu as comme beaucoup de joueuses qui peuvent peut-être rivaliser. Tu sais, puis Rankova, c'en est une, elle est encore dans le tableau. Alors, il y a peut-être moins de joueurs du top 10, mais peut-être des joueuses qui peuvent battre ces joueurs du top 10-là. Je veux dire, Azarenka, elle a gagné Cincinnati. Alors, elle n'a pas joué contre Osaka, mais elle l'a quand même gagné le tournoi. Alors, ça reste. Il y a quand même d'autres grands noms qui peuvent quand même légitimer d'une certaine manière la victoire, je pense.
Oui, mais n'en demeure pas moi aussi qu'on en a parlé à Alex la semaine dernière. Si Serena devait l'emporter, ça aurait été une partie de tableau assez ardue. Là. Lorsqu'on compare au reste du tableau, c'est probablement la tête de série qui avait un des tableaux les plus difficiles.
Au départ, je pense que c'est elle qui avait le tableau le plus difficile. Bon, ça s'est un peu ouvert, oui. Mais quand je faisais mes prédictions au départ, à part le match de premier tour, chaque match était compliqué. Puis elle a dû battre Sloane Stephens, qui est une championne de Grand Chelem, qui n'est pas dans le top 10, qui ne joue pas aussi bien, mais c'est quand même une championne de Grand Chelem. Alors, je pense qu'effectivement, dans le cas de Serena, de par son tableau difficile, je pense que... En tout cas, c'est sûr qu'à jamais, on va dire qu'il n'y avait pas tous les top 10, mais il reste que... Je pense que ce serait trop facile de mettre une barre sur cette victoire-là en disant « tout le monde n'était pas là ». Je pense qu'il y a beaucoup d'autres facteurs à mettre en jeu.
Mais je ne mets pas une barre, hein, juste un astérix.
Ouais,
et de toute façon, les 24 titres de Margaret Court, ou les 23,
oui.
Il devrait y avoir 12 astérisques à côté, parce que ça se faisait d'accord. À une époque où elle gagnait des grands chelems quand elle les gagnait en Australie, alors que les Américaines ne faisaient même pas le voyage à l'époque, alors. C'est une toute autre époque. C'est Maurice Richard, Wayne Gretzky ou Sidney Crosby. C'est des comparaisons qui ne tiennent pas.
Ouais. Intéressant. Alors, on va vous en tenir rigueur de vos prédictions. On va faire exprès si jamais ça arrive. On va vous mettre sur un piédestal et si ça n'arrive pas, on va rire de vous autres. Non, c'est pas vrai. On fera pas ça. Je veux qu'on parle de Novak Djokovic avant de peut-être laisser partir Valérie. Paul, lui, semble vouloir rester avec nous jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Je sais que le règlement, il est clair. Visiblement, il n'était pas mal intentionné. C'est un accident. Mais le règlement, il est clair, il devait être suspendu. Mais moi, je pose une question. Un joueur qui lance la balle dans les gradins par frustration, il ne se fera pas suspendre, il va recevoir un code violation, mais un avertissement. Alors, est-ce que...
Ça dépend. Si c'est le cas de Denis Shapovalov en Coupe Davis, qui c'est exactement ça qu'il voulait faire aussi, envoyer une balle dans les estrades.
Mais il a frappé l'arbitre.
Mais ça aussi, c'était un accident. Et c'est pour ça que le règlement est là. Puis j'ai déjà vu le règlement être appliqué dans des tournois Challenger où un joueur justement a atteint un juge de ligne en finale d'un Challenger et c'est exactement le même sort qui lui a été réservé, c'est-à-dire que il a été disqualifié et en plus il a perdu sa bourse, il a perdu les points. Donc la seule chose, je dirais moi, que où j'étais soulagée, en fait, c'était de voir qu'il n'y avait pas deux poids, deux mesures. Parce que plus longtemps la conversation durait au filet, plus j'étais hésitante à savoir si on allait finalement laisser Novak Djokovic s'en sortir avec peut-être un jeu ou une manche de pénalité.
Mais pourquoi est-ce qu'on ne suspend pas, est-ce que dans ce cas-là, tous les joueurs qui ont un geste de frustration plus ou moins dangereux? Parce que moi, je trouve que je suis d'accord avec la décision qui a été prise, mais comme je dis, des fois, tu lances une balle par-dessus le terrain ou en frustration et tu reçois un code violation, puis le résultat n'est pas le même en termes de conséquences, mais le geste, l'intention est exactement la même. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas le règlement d'une façon plus large? Moi, je pose la question.
Bien, ça, ce serait de refaire le livre des règlements. Mais là, pour l'instant, le cas qui nous intéresse, c'est Djokovic et le règlement est appliqué. Comme Valérie dit, c'est quand même satisfaisant de voir que les têtes de série n'ont pas de laisser passer ou de chance, comme on pourrait dire. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de... Parce qu'on a vu beaucoup, là, il y avait l'école qui était pour la décision, d'autres qui étaient contre. Évidemment, je pense que le geste était, tu l'as dit, Alex, c'est assez banal, entre guillemets, sans excuser ce qu'il a fait. Là, il a quand même atteint un juge de ligne, mais n'en demeure pas moins que le geste, bon, c'était pas... puis Djokovic s'est immédiatement excusé, mais il y a un règlement et le règlement est appliqué.
Paul, tu penses quoi de cette situation-là? Toi, je sais que tu semblais très d'accord avec le processus décisionnel quand on s'est parlé hier. Est-ce que tu as toujours la même position aujourd'hui?
C'est sûr. Entièrement. D'abord, je vous amène au hockey. Rappelez-vous, à chaque fois, il y a un coup. Quand il y a du sang, on punit plus sévèrement. Comme si le coup qui n'a pas fait gicler le sang serait moins important. Bon. Les arbitres qui ne voient pas tout devaient trouver une raison pour vraiment pénaliser. Revenons au cas de Djokovic. Quelques jours, une semaine avant, sur le même site du US Open, alors que se déroulait le tournoi de Cincinnati, Aliaj Bedene a lui aussi, dans un geste de frustration, envoyé une balle qui a ricoché sur un caméraman. Le caméraman dit « il n'y a pas de problème », il souriait, « il n'y en a pas de problème », et il n'a eu qu'un avertissement. Chose certaine, il aurait pu le blesser. Revenons à Djokovic qui était absolument pas animé d'aucune mauvaise intention, mais qui était un peu caractériel sur les bords. La preuve, quelques instants avant, il avait garoché, permettez-moi le terme, une balle de violente façon sur la rampe. Il n'y avait personne. Là, il a envoyé une balle au bout de ses bras et l'a regardé, il venait de blesser quelqu'un. Je reviens à Chapovalov, même chose, il voulait l'envoyer loin dans les estrades. Si vous voulez la garrocher n'importe où, arrangez-vous pour que le n'importe où n'ait aucun humain à peu près à une distanciation beaucoup plus que celle de la COVID-19, soit 200 mètres. Si celui qui garoche la balle à l'autre bout de ses bras, dans les estrades ou même dans la rue, atteint quelqu'un sur la tête qui ne fait pas attention et crée une commotion cérébrale, est-ce qu'il devrait être pénalisé? Absolument. Ça veut dire que Corentin Moutet contre Félix Auger-Aliassime, qui après le deuxième set qu'il a perdu, je crois, a lancé non pas une, mais deux balles au bout de ses bras, aurait pu atteindre quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? De l'autre côté, il y a des gens sur les médias sociaux qui me critiquaient en disant « C'est ça, on veut faire des robots avec eux autres. » Non, mais je pense que Alexander Zverev a la bonne solution. Lui, il fracasse les raquettes par terre, loin des gens. Il est le seul qui risque de payer pour. Il faut faire attention et je crois qu'il faut pénaliser même ces gestes, quitte à ce que le tennis soit accusé d'être trop propre.
Mais je pense que c'est bien dit, Paul. Puis, bon, pour ton argument, Alex, je pense que c'est une question de responsabilisation. Puis, c'est la même chose de toute façon dans la société en général. Je veux dire, si tu as quelque chose dans les mains, un objet, et que tu décides de le lancer, ben si tu atteins quelqu'un, il va avoir des conséquences. Alors, sur un terrain de tennis, ben c'est la même chose. Si tu décides d'envoyer la balle à quelque part, t'es mieux de regarder avant où tu l'envoies ou d'y penser deux fois, parce que si tu atteins quelqu'un, ben tu devras vivre avec les conséquences. Et aujourd'hui, ben ça va de soi. Djokovic doit vivre avec les conséquences.
Mais est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement interdire ce genre de geste? Point. Parce que là, on punit la conséquence, on punit la conséquence. Là, il y a eu un blessé, parfait, on va agir. S'il n'y avait pas eu de blessé, si par contre, si la balle avait passé à 3 cm du juge de ligne, est-ce qu'il aurait perdu son match? Est-ce qu'on l'aurait suspendu? Peut-être pas. Alors que le geste aurait été exactement la même. Alors pourquoi est-ce qu'on... On fait pas simplement interdire ce genre de geste de frustration-là, tout simplement. Puis mettons ça clair, tu n'as pas le droit de lancer une balle dans les gradins, tu la déposes à terre, peu importe. Moi, c'est juste ça la question que je pose, parce que c'est comme si on punissait le résultat et non pas l'intention.
Éventuellement, ouais. Ça va arriver que des joueurs qui seront pénalisés pour une banale balle lancée dans les estrades où il n'y avait absolument personne, ça finit par rentrer. C'est sûr qu'à un moment donné, tu les punis durement pour quelque chose comme ça. Il n'y a rien qui ne s'apprend pas. Cela dit, Valérie, tu as joué, tu as côtoyé des joueurs dans ton rôle de directrice des communications. Si vous me permettez de faire dévier ça, et à la défense des athlètes, ce sont des êtres d'exception soumis à un stress inimaginable et on parle des hommes avec leur taux de testostérone, mais pour les femmes qui sont aussi stressées, Valérie, ça fait partie à quelque part de l'exutoire qui leur permet de faire sortir la pression. C'est pas évident, n'est-ce pas, de dire on arrête ces gestes-là à tout jamais.
Non, et ça fait partie d'à peu près tous les sports, de toute façon, ce sont des réactions. Mm-hmm. Oui, on peut parler de la balle, on peut parler de la raquette aussi, et de toute façon, ben il y a déjà des conséquences avec lesquelles ils doivent vivre, parce que tu envoies une balle dans les estrades ou que tu fracasses ta raquette sur le terrain, ben normalement, ça vient avec un avertissement, ça vient avec des amendes aussi. Alors, c'est pas vrai que on tolère tout simplement et on ferme les yeux à chaque fois, mais de là à dire, ben, on suspend automatiquement un joueur qui démontrerait un geste de frustration, c'est là aussi où il y aurait toute une zone grise, hein, et ouais. J'ai l'impression que ça nous ferait jaser pendant très longtemps, ce que l'on tolère,
pour
ce que
beaucoup,
l'on tolère.
Beaucoup d'émissions.
ça, c'est sûr. Valérie, aurais-tu un 7 minutes pour nous?
Certainement.
J'aimerais ça te garder parce que j'ai
non, c'est tout un compliment là, qu'il te fait. Là. On ne peut pas arrêter, on ne peut pas continuer avec moi seulement.
C'est la meilleure personne pour parler du prochain sujet. Tu penses quoi, toi, de la création du syndicat un peu parallèle des joueurs? Tu as été dans ces joueurs-là que c'est pas toujours évident, les conditions de l'ATP, de la WTA pour les joueurs classés, disons, en bas du top 50. Tu vois ça, toi, comment la venue de ce syndicat, en guillemets, parallèle, parce que, bon, l'ATP était censé être une certaine manière un peu la représentation des joueurs, mais semble-t-il que les joueurs ne sont pas satisfaits de ça.
Oui, mais je vois les deux côtés de la médaille, hein, parce que, oui, j'ai été joueuse, puis maintenant, bon, je travaille aussi pour l'organisation de la Coupe Rogers du côté du Canada, donc je vois plutôt ce qui se passe aussi dans le monde, qui est l'organisation d'un tournoi, et je vous dirais que déjà, pour commencer, quand j'étais joueur, je pense pas que je comprenais toute la business du tennis qu'il y avait à l'arrière-scène. Et ce que je trouve le plus dommage dans tout ça, c'est le moment qui a été choisi pour ça. Parce que on est dans une période très difficile, que ce soit au tennis ou que ce soit tout simplement là, dans le monde entier, une période de crise où on a besoin de collaborer, de s'aider et non pas de se diviser. Et c'est exactement ce qui est proposé là par Novak Djokovic et Vacek Pospisil lorsqu'ils ont fait cette annonce il y a à peu près une semaine. Maintenant, on l'a vu venir parce que ça fait déjà un petit moment que et Novak Djokovic et Vacek Pospisil je dirais divisaient presque le conseil des joueurs. Il y avait Rafael Nadal et Roger Federer, qui n'était plus parmi le conseil, qui ont décidé justement de revenir en connaissant un peu les intentions de Novak Djokovic et de Vacek Pospisil et qui n'étaient pas nécessairement toujours d'accord avec leur manière de faire. Mais bon, donc on l'a vu venir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que il reste pas mal de questions auxquelles, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Je ne sais pas non plus quelles sont leurs intentions pour faire moyen de pression, évidemment, sur les deux circuits. Mais lorsqu'on parle de partage de revenus, je suis d'accord que, par exemple, dans les tournois du Grand Chelem, où les revenus sont beaucoup plus importants, mis à part, soit dit en passant, évidemment, 2020, dans les autres tournois, j'ai l'impression que les joueurs n'ont peut-être pas la réalité en pleine face. Et il n'y en a pas beaucoup des tournois qui font des revenus, qui font des profits. Et lorsque c'est le cas, c'est très peu et c'est souvent pour financer justement d'autres activités qui sont liées au tennis. Alors, je ne sais pas comment tout ça va se conclure, mais j'ai un peu peur de ce qui s'en vient quand même si jamais justement il devait y avoir menace de grève ou autre dans les prochaines années. Et je finirai juste en disant, lorsque je parlais de collaboration aussi, j'étais déçue de voir, un peu comme l'a dit Andy Murray, que dans tout ça, on avait oublié aussi le circuit féminin, alors que c'était peut-être une chance. Pendant la pandémie, on ne parlait plus de jamais d'unir les deux circuits ensemble. Et là, du côté des joueurs de l'ATP, on a décidé de faire cavalier seul.
Oui, la statistique qui... Permettez-moi, Alex, de seulement mentionner pour compléter ce que Valérie disait, c'est que la statistique qui a été avancée dans l'élaboration de ce plan-là, c'est que l'ATP est une entreprise, entre guillemets, qui génère 2 milliards de dollars annuellement et seulement 7% des revenus allaient dans les poches des joueurs. Donc, lorsqu'on compare avec d'autres ligues professionnelles, que ce soit la NBA, la LNH, la MLB, où les revenus sont à peu près 50-50, la situation actuelle de l'ATP est absolument aberrante.
Ouais, mais Nico, il y a une chose qu'il faut garder en tête. Par contre, je comprends que 7% est assez énorme en termes de différence, mais s'il ne retourne pas dans les poches des joueurs comme tels directement, dans le cas d'une organisation comme Tennis Canada, elle y retourne en tout cas en grande partie. En tout cas, Valérie, tu me corrigeras si je me trompe, mais elle va dans le développement des joueurs. La plupart des profits vont dans le développement des joueurs, dans des petits tournois qui permettent à la relève de pousser. Alors, si elle ne va pas dans les poches d'un joueur unique, elle va quand même, en tout cas en bonne partie, surtout que bon, Tennis Canada, c'est une organisation à but non lucratif. Alors, il faut garder ça en tête que le 7%, il est peut-être pas si démesuré que ça, quand tu penses qu'une bonne partie des revenus et l'essentiel des revenus, comme dans le cas de Tennis Canada, va...
Bien sûr, mais lorsqu'on parle souvent, Alex, à l'émission, tu sais, de ce fameux top 100, top 300, top 200 qui en arrache à joindre les deux bouts, est-ce que s'il y avait une plus grande quantité, une plus grande proportion du magot qui allait dans les poches des joueurs, est-ce que ça réglerait une partie du problème? Peut-être.
Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une meilleure redistribution des bourses tant qu'à ça dans les tournois du Grand Chelem? Au lieu de donner 4 millions aux champions, prend 2 millions de sa bourse, donne-y 2 millions, puis donne... divise le 2 millions dans le... Je ne sais pas, je ne veux pas lancer le débat, mais...
Oui, mais un perdant de premier tour au Grand Chelem, 61 000 $, c'est pas pire pour pas gagner un match dans un sens. Je suis d'accord qu'à un moment donné, rendu dans les hauts échelons, c'est très, très, très bien payé. Et je pense que ça commence par les ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250. Tout à fait d'accord. D'un autre côté, pour revenir à la belle mission de Tennis Canada, Valérie pourrait peut-être essayer d'enlever son jupon rouge et blanc qui dépasse, nous dire si tous ces tournois-là sont des organisations à but non lucratif ou la plupart sont des organisations lucratives?
C'est assez partagé. Si on regarde, par exemple, tous les tournois du Grand Chelem, c'est pour financer les activités d'une fédération. Par contre, c'est pour ça que je disais, je tiens quand même à dire que oui, il y a peut-être quelque chose à faire dans les tournois du Grand Chelem, mais en même temps, c'est là, effectivement, où les joueurs sont déjà les mieux payés. Je peux vous dire que dans mon temps, ça remonte à peu près il y a 10 ans, c'était 20 000 la bourse pour s'incliner au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem. Donc déjà en 10 ans, on a fait du chemin pour arriver avec la bourse qu'on a aujourd'hui. Mais pour revenir aussi un peu sur le pourcentage du partage des revenus, il faut faire attention aussi avec ce chiffre-là et lorsqu'on fait des comparaisons avec les autres ligues professionnelles parce que les joueurs n'appartiennent pas à personne non plus. Ils sont un peu leur propre PME, leur propre entreprise. Et donc, par exemple, un tournoi comme la Coupe Rogers ou n'importe quel autre tournoi ne peut pas utiliser tous les joueurs comme bon leur semble pour aller chercher d'autres revenus, que ce soit en commandite, en vente de marchandises ou peu importe. Et donc, si les joueurs, c'est vraiment vers un autre modèle qui est plus similaire à ça où on veut s'en aller, il va falloir comprendre qu'il va falloir probablement en donner un peu plus aussi de l'autre côté.
Nico, je pense que c'est une parfaite conclusion. On avait deux invités extraordinaires aujourd'hui. Les amis, vous êtes invités quand vous voulez. C'est bord ouvert pour vous au podcast sur la ligne, le podcast officiel de la Coupe Rogers. Merci beaucoup. Nico, la semaine prochaine, invité à confirmer. C'est pas mal confirmé, mais je veux pas le lancer. Mais c'est quelqu'un de très, très, très intéressant. Peut-être parler de l'économie du tennis un petit peu. Ça va rejoindre un peu notre sujet. Paul, merci infiniment. Valérie, merci infiniment. Comme je dis, vous êtes invités quand vous voulez. Même pas. Vous pouvez arriver en surprise dans le podcast, puis on va vous prendre.
Merci beaucoup. Merci, c'est comme si on plaisir. Avait une carte chouchou.
Confirme une carte chouchou. Nico va vous préparer des cartes chouchou cette semaine.
Oui, je te mets plastifié.
Merci beaucoup. À la semaine prochaine, tout le monde. Nico, tu veux conclure avec ton mot de conclusion habituel?
Bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde.
Merci.
Bye-bye.
Bye-bye.